Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez savoir de cette journée du jeudi 25 novembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence d'abord par des pressions.
Des pressions sur les non-vaccinés pour faire face à la cinquième vague de Covid. C'est la stratégie sanitaire du gouvernement pour les prochaines semaines. Les tests de dépistage ne seront désormais plus valables que 24 heures au lieu de 72 heures. Rappel de vaccin pour tous les plus de 18 ans possible dès ce samedi. Et plus de fermeture systématique des écoles dès le premier cas de Covid. On fait le tour de ces annonces en début de journal. L'autre actualité ce soir, c'est la réaction de la France et de l'Angleterre après le drame d'hier. Au large de Calais, Emmanuel Macron entend renforcer les moyens pour surveiller les côtes. Drones, soldats réservistes, éclairage avec la rédaction internationale. À suivre aussi, l'État condamné à indemniser la famille de Rémi Fraisse, ce manifestant tué en 2014. Les naissances qui ont fortement chuté l'an dernier, chiffre de l'INSEE. Et puis l'arrivée des plus petits bateaux de la Transat Jacques Vabre, les IMOCA, nous seront en Martinique.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir on est heureux d'avoir avec nous Pedro Almodovar. Il revient avec un film qui renoue avec les thèmes de la maternité qui lui sont chers, mais pas seulement, nous sommes aussi au cœur de l'histoire espagnole avec un grand H et son passé fasciste. À 19h20, c'est le téléphone sonne et là on va tâcher de venir en aide aux parents perdus dans les conversations de leurs enfants sur le genre, sur l'identité, sur la sexualité. Ça marche sans frayeur, sans drame. Si vous avez une ado chez vous, vous l'entendrez parler de son refus de se définir, différencier genre et sexualité avec beaucoup d'aisance. Certains s'inquiètent, parlent même de dérive. Peut-être que c'est beaucoup plus simple et que cette génération a des choses à nous apprendre. Allez-y, 01 45 24 7000.
France Inter.
Nous avons encore notre destin entre nos mains.
Déclaration ce midi d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui s'est voulu rassurant. Pas question de confinement, ni de couvre-feu, ni de fermeture anticipée des commerces. Nous pouvons, a dit le ministre, passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants. Voilà pour l'esprit des nouvelles mesures annoncées aujourd'hui. Des mesures qui, malgré tout, contiennent plusieurs contraintes nouvelles. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Commençons par la vaccination, l'outil principal de l'exécutif pour parer à la flambée des contaminations. La dose de rappel est élargie à tous les adultes à partir du cinquième mois après la dernière dose.
Oui, ce sont 19 millions de Français supplémentaires qui sont devenus éligibles à ce booster. Les plus de 18 ans sont invités dès ce week-end à se rendre dans les centres de vaccination, les pharmacies, les cabinets de médecins ou encore d'infirmiers. Il suffit qu'ils soient à plus de 5 mois de la fin de leur schéma vaccinal. Les personnes ayant eu la Covid sont elles aussi concernées. Les éligibles auront 2 mois pour réaliser ce rappel car à partir du 15 janvier, ils devront justifier de l'avoir reçu pour conserver un pass sanitaire valide. Concrètement, si vous avez été vacciné le 18 juillet, vous avez jusqu'au 18 février.
Au chapitre des contraintes, retour du masque en intérieur et des tests de dépistage à durée de vie plus courte.
Oui, la règle est ferme à compter de demain. Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux fermés, y compris ceux soumis au pass sanitaire. Ça veut dire musée, cinéma, restaurant et il n'y a pas d'exception. Les salles de sport et les discothèques sont également concernées. Le port du masque pourra aussi être demandé à l'extérieur sur des lieux de forte affluence comme les marchés de Noël. La validité des tests changera elle à partir de lundi. On passe de 72 à 24 heures et je précise que le délai de validité compte à partir du prélèvement et non du résultat.
Dernier chapitre enfin Hélène, le gouvernement qui ouvre la porte à la vaccination des enfants.
Oui, l'Agence européenne du médicament a rendu son avis ce matin. Elle autorise les enfants de 5 à 11 ans à recevoir un tiers de la dose de Pfizer en 2 injections espacées de 3 semaines. Mais le vaccin n'arrivera pas tout de suite en France. Olivier Véran a bien expliqué à la mi-journée qu'il va avant saisir le comité consultatif national d'éthique car il y a des questions d'éthique en matière de protection collective et individuelle des enfants. Puis ce sera au tour de la Haute Autorité de Santé de se prononcer. Si elle était décidée, cette vaccination des enfants ne commencerait pas avant le début de l'année prochaine et précision de Jean-Michel Blanquer, elle serait facultative.
Hélène Chevalier, merci. Puis dernier point essentiel justement, l'école, vous en parlez. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé qu'il n'y aurait pas de plus de fermeture de classe dans les écoles primaires dès le premier cas de Covid détecté. Si un enfant est testé positif, les autres enfants de la classe devront se faire tester. Ils ne pourront revenir à l'école que si les parents présentent un test négatif. L'élargissement de la dose de rappel à tous les adultes à partir de samedi a provoqué une véritable ruée sur les demandes de rendez-vous. Il faut attendre en moyenne 30 minutes sur le site de Doctolib. Plusieurs centres de vaccination vont être réouverts. Rue également dans les pharmacies qui peuvent également vacciner. Reportage d'Harry Sago à la pharmacie du quartier du Toulon à Périgueux.
Allô ?
Ah, c'est une injection Covid ? Alors j'ai de la place lundi après-midi si vous voulez.
Ça se voit qu'il y a eu des annonces
et là ça fait que ça depuis tout à l'heure. Comme c'est ouvert maintenant à tout le monde et à partir de 5 mois, bah, tout à l'heure j'ai un couple qui a appelé pour changer sa date, pour avancer sa date de 3 semaines.
Ils avaient pris rendez-vous juste avant Noël et là, ils ont voulu début décembre. Oui, parce qu'ils ont peur de plus avoir de passe. Quoi qu'ils disent bien que c'est qu'au bout de 7 mois qu'on n'aura plus de passe. Il y a les tests qui sont repartis en flèche depuis hier.
Oui, ben vers 16h30, si vous voulez.
Ben, c'est un service de proximité. Le client a la facilité, ben, il a le contact facile. Il nous a directement au téléphone, autrement c'est Doctolib. Puis quand on veut changer son rendez-vous, c'est plus pratique de téléphoner.
C'est plus pratique. Moi, j'habite à 200 mètres, donc c'est beaucoup plus pratique de venir à la pharmacie. Comme maintenant, on peut venir dans les pharmacies et tout ça, et que j'ai confiance en elle, c'est très bien.
Allô ? Allô ? Tous les coups de fil, c'est pour des rendez-vous.
À cause des annonces, là, oui.
Si ça peut inciter des nouvelles personnes à se faire vacciner, parce que là, je viens d'inscrire 2 nouvelles personnes, ce sera des premières doses. On en voit encore les premières doses, voilà.
Reportage de France Bleu, Périgord. Le Covid à l'étranger, le Maroc qui se referme à nouveau et qui entend se protéger face à la 5e vague qui menace en France. Résultat, tous les vols à destination ou en provenance de l'Hexagone sont suspendus à partir de demain minuit, et ce jusqu'à nouvel ordre.
Au lendemain du drame au large de Calais, comment empêcher ces traversées meurtrières?
27 morts selon le dernier bilan, noyés dans la Manche après le naufrage de leur embarcation. Réunion de crise ce matin à Matignon, mais pas d'annonce à la sortie. Le seul à prendre la parole aujourd'hui, ce fut le chef de l'État lui-même en déplacement en Croatie, Emmanuel Macron, qui pour l'instant entend renforcer l'action de l'exécutif sur la lutte contre les passeurs, tout comme les Britanniques qui proposent des patrouilles de police conjointes. Bonsoir Marie-Pierre Vérot.
Bonsoir.
Paris et Londres n'envisagent donc à ce stade qu'un durcissement du contrôle des flux migratoires.
Ben oui, en effet, hein, renforcer les patrouilles, militariser encore plus les frontières, démanteler les gangs de passeurs. La coopération à laquelle on appelle des deux côtés de la Manche est bien d'ordre sécuritaire. Emmanuel Macron l'a redit depuis la Croatie ce jeudi. Jamais la France n'a eu autant de policiers, de militaires et de gendarmes mobilisés contre l'immigration clandestine. Et la France, elle va intensifier sa surveillance, annonce le président.
Nous allons d'une part maintenir évidemment cette présence maximale, continuer d'utiliser aussi les drones, en particulier ceux de l'armée, mobiliser des réservistes, demander une mobilisation supplémentaire des Britanniques, mais surtout, il nous faut développer de manière beaucoup plus forte et responsabiliser nos partenaires pour mieux prévenir les arrivées sur le sol français.
Des réseaux de passeurs qui sont dans le collimateur aussi de Priti Patel. La ministre britannique de l'Intérieur, elle les qualifie de gangs criminels et propose à Paris de mettre ensemble plus d'hommes sur le terrain.
Je viens de nouveau de m'entretenir avec mon homologue français, le ministre Darmanin, et j'ai réitéré de manière très claire à la France mon offre de patrouille conjointe pour empêcher ces dangereuses traversées. J'ai proposé de travailler avec la France pour mettre plus d'hommes sur le terrain.
Et une fois de plus, ce sont donc plus de moyens de surveillance ici, plus de murs ailleurs, aux frontières de l'Europe. Et pourtant, selon les chercheurs qui travaillent sur ces questions migratoires, tout cela n'empêchera pas des personnes désespérées de chercher une meilleure vie ailleurs. Cela ne fera juste que rendre plus difficile et plus périlleuse la traversée des frontières. Cela ne fera aussi qu'intensifier le recours à ces gangs de passeurs que pourtant on souhaite démanteler.
Marie-Pierre Vérot, ajoutant qu'une cérémonie en hommage aux 27 morts doit avoir lieu ce soir à Calais. Nous y serons dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Coup de semonce pour exiger plus de licences de pêche des autorités britanniques. Les pêcheurs français annoncent une action d'éclat pour demain avec le blocage des accès à 3 ports, Saint-Malo, Ouistreham et Calais. Blocage prévu aussi du tunnel sous la Manche. C'est une victoire importante pour la famille de Rémi Fraisse, ce manifestant écologiste tué par une grenade des gendarmes en 2014 lors des manifestations contre le projet de barrage de Sivens. Après des années de procédure, la justice administrative a admis une part de responsabilité de l'État. L'État est condamné à un indemniser la famille. Une satisfaction en demi-teinte toutefois pour l'avocat de la famille Fraisse, maître Étienne Noël.
C'est quand même la première bonne nouvelle dans le dossier de Rémi Fraisse depuis octobre 2014. C'est-à-dire que depuis le décès de Rémi Fraisse, pour le moment, on a accumulé les non-lieux, les confirmations de non-lieux dans le dossier pénal. Et là, on a la première prise de décision d'une juridiction qui enfin reconnaît que l'État a une part de responsabilité même si c'est à hauteur de 80%, c'est quand même très très important pour nous. L'État est condamné, mais il est considéré comme responsable des dommages qu'a subi Rémi Fraisse dans le cadre de cette opération de maintien de l'ordre. En condamnant l'État, le tribunal considère que Rémi Fraisse est une victime collatérale des opérations de maintien de l'ordre. Nous, on aurait bien aimé que l'État soit condamné pour l'utilisation de l'arme dangereuse. Parce que c'est précisément ce que le rapporteur public a dit, c'est-à-dire que cette arme, cette grenade comportait des risques exceptionnels, et a été employé à tort et à travers par le gendarme qui l'a lancé.
Maître Étienne Noël, l'avocat de la famille Fraisse avec France Bleu Occitanie. Omar Radad, lui, sera dans moins d'un mois s'il a une chance de voir son procès révisé. La justice rendra le 16 décembre sa décision sur la demande de révision du procès du jardinier marocain condamné pour le meurtre en 91 de Ghislaine Marchal qu'il nie farouchement depuis 30 ans. Quelles ont été les conséquences de l'épidémie de Covid sur la population française l'an dernier? Comme chaque année, l'INSEE publie son portrait social de la France. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Pour portrait où l'on apprend que la natalité notamment a fortement chuté dans certaines régions.
Et oui, 9 mois après le premier confinement, les naissances chutent brutalement à l'hiver 2020 et c'est la plus forte baisse depuis la fin du baby boom. Les naissances diminuent fortement dans les départements les plus touchés par l'épidémie, c'est-à-dire le quart nord-est ou l'Île-de-France. On compte jusqu'à 15% de naissances en moins en Seine-Saint-Denis. C'est 3 fois moins de naissances dans les communes les plus touchées par la pauvreté et dans les villes les plus densément peuplées. Tout ça s'explique, selon l'INSEE, par le climat anxiogène lié aux mesures et à la crise sanitaire, mais aussi à la crainte des conséquences sociales et économiques de la pandémie. Tout ça a pu dissuader certains couples de faire des bébés, voire les a poussés à reporter leur projet d'enfant. À l'époque, il faut le dire, les conséquences du Covid sur les grossesses étaient aussi très mal connu. Au printemps dernier, on s'est remis à faire des bébés, un peu, pas assez en tout cas, pour compenser la chute des naissances de l'hiver. Moins d'une naissance sur 5 a été rattrapée.
Oui, et puis ajoutons qu'effectivement, cette baisse est en partie compensée depuis cet été. Les naissances qui remontent petit à petit, 5% de bébés en plus en octobre 2021 par rapport à l'an dernier.
Et on finit, Sébastien, au large de la Martinique.
Après les multicoques, c'était au tour des monocoques de toucher terre en Martinique dans la Transat Jacques Vabre avec l'arrivée du premier IMOCA en début d'après-midi. Les IMOCA qui ne sont pas des petits bateaux, contrairement à ce que je disais en titre, qu'ils font quand même 18 mètres de long, qui ont couru le Vendée Globe notamment. C'est le duo Thomas Ruyant-Morgan Lagravière qui a franchi la ligne tout à l'heure dans la baie de Fort-de-France. Deux marins très marqués physiquement après une belle bagarre sur l'eau. Reportage de Jérôme Val.
Une transat longue, éprouvante, chaude.
En 3 mots, Thomas Ruyant a résumé cette traversée de 18 jours, presque 3 semaines à batailler sur l'eau, d'où l'immense plaisir du nordiste sur le ponton d'arrivée.
Beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction, d'un travail bien fait de la part de toute une équipe. C'est un vrai sport collectif. Finalement, si on sait naviguer de cette façon-là, aussi rapidement, aussi sereinement, c'est aussi parce que on a une machine qui est bien prête.
Cette victoire, c'est d'abord celle d'un duo, deux marins qui ont appris à se connaître à bord, qui ont su gérer une fin de course stressante et interminable avec des conditions de vent faibles. Un facteur humain déterminant pour Morgan Lagravière.
Il y a plein d'aspects, il y a la technique, il y a le sportif, il y a tout ce qu'on veut, mais avant tout, on gagne ensemble. On avait une envie commune, on a un passé commun, on a une génération proche, donc on partage pas mal de choses. Moi, j'ai été assez désagréable dans les moments où on n'allait pas très vite. C'est ce qui construit aussi les bons moments à la côté. Ça a été une vraie réussite humainement.
Thomas Ruyant était sorti du dernier Vendée Globe avec une décevante 6e place, il termine l'année sur un succès probant.
Je suis pas revanchard, moi. C'est une course à part entière. Et Vendée Globe, c'est derrière. Il y en a un autre qui se profile en 2024. Cette course-là fait partie du chemin pour arriver au prochain Vendée.
Leurs poursuivants sont loin derrière. Charlie Dalin et Paul Meillat n'arriveront ici à Fort-de-France que la nuit prochaine.
Jérôme Val au large de Fort-de-France. Un dernier mot avec l'écrivain péruviano espagnol sous la coupole Mario Vargas Llosa a été élu aujourd'hui à l'Académie française. Malgré son âge, 85 ans, plus élevé que ne le permettent les statuts. Le prix Nobel de littérature de 2010 a été le premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade.
Sébastien Logénie, merci beaucoup Sébastien, à tout de suite.